Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, chers auditeurs, chères auditrices. Vous écoutez bien Transistor. Et non, ce n'est pas pour des raisons techniques que nous commençons ce 62e JRA à 20h26, mais bien pour récompenser les plus fidèles d'entre vous qui nous écoutent encore.
On vous aime.
Nous sommes le 27 février 2020, il est 20h26. Bienvenue dans votre émission préférée du jeudi soir, qui est, comme toujours, mixée, égalisée, montée et bien sûr amplifiée. Au programme ce soir, nous parlerons de coronavirus, mais aussi des municipales, des primaires aux USA, des violences communautaires en Inde, de la fermeture de la centrale de Fessenheim, de Katherine Johnson, une fameuse mathématicienne, du goulag et encore de quelques autres sujets. Et nous commençons tout de suite avec quelques brèves. Maxime, tu voulais nous parler du Salon de l'Agriculture.
Et oui, en effet. Donc du 22 février au 1er mars 2020, à Paris Expo, porte de Versailles, se déroule le Salon de l'Agriculture, moment fort important où les petits Parisiens peuvent enfin découvrir le bruit et l'odeur de la province rurale et assister en bon viandard ami des animaux au défilé des plus jolis steaks que notre nation ait à proposer sur notre marché national. Mais il y a bien plus intéressant, évidemment. Le Salon de l'Agriculture, c'est aussi le théâtre des politicards qui viennent se tirer dans les pattes pour caresser la noiraude et s'attirer les faveurs de l'électorat agricole. Aussi, Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture, s'emporte-t-il en arrachant son micro à un journaliste de France 5, le questionnant sur l'abattoir Sobeval, dont L214 a diffusé des images de sa non-conformité et de la cruauté d'abattage des veaux il y a quelques jours. C'est aussi Emmanuel Macron qui essaye de rassurer les agriculteurs sur leur retraite, l'accord de libre-échange entre le Mercosur et l'Union européenne sur l'interdiction du glyphosate, la réforme à revenir de la PAC que le Brexit met vraiment à mal, de même que la filière pêche, etc. etc. Beaucoup de sujets d'enjeux donc, et certainement beaucoup de blabla pour pas beaucoup de solutions proposées en réponse. Alors, rassurez !
Merci Maxime. Et Victor, toi, tu voulais nous parler d'un autre type de troupeau. Il s'agit du 49-3 et de l'équipe présidentielle.
Alors, va-t-on avoir le droit à un nouvel épisode de l'article 49-3 ? C'est la question qui s'est récemment invitée dans le débat sur la réforme des retraites. Donc, pour rappel, c'est un article de la Constitution qui permet de faire passer une loi sans l'accord du Parlement, ce qui permet d'éviter un débat avec l'opposition et notamment la France Insoumise, qui a déposé plus de 42 000 amendements pour retarder l'adoption de cette loi. Alors pour le gouvernement, il y a deux enjeux principaux, à savoir le calendrier et l'image qui est renvoyée par cette pratique. Donc d'abord, le problème, c'est les élections municipales qui approchent à grands pas et il faut retarder à tout prix l'utilisation du 49-3 pour ne pas influencer sur le vote des Français et notamment une possible débâcle de LROM au municipal. Et l'autre problème, c'est un souci d'image puisque le gouvernement cherche à donner la responsabilité du 49-3 à l'opposition. En pointant du doigt leur refus du débat, et quand on sait à quel point les manifestants sont écoutés, ça fait tiquer.
Merci Victor. Et alors, à ton avis, Nicolas, est-ce que les élections municipales vont être passées au 49-3 ?
C'est totalement possible parce que j'ai lu aujourd'hui dans Le Monde, hein, pas Le Monde, la Terre, hein, le quotidien, rassurez-vous, parce que Le Monde, on y est,
merci,
on y marche.
Bon. On avait des doutes.
Bref, Le Monde, le quotidien parle aujourd'hui du risque plus que probable de Bérézina pour LREM à ces élections qui se tiendront dans à peine plus de 2 semaines. Ça fait plaisir. Le parti présidentiel, qui n'a des chances de victoire qu'à Lyon, Strasbourg, voire à Besançon, a déjà intégré que le scrutin ne lui sera pas favorable. Pour vous donner quelques exemples, à Lille, Violette Spielboot, candidate à LREM, est ainsi créditée de 14%, loin derrière Martine Aubry et le candidat Europe Écologie Les Verts, selon l'IFOP. À Bordeaux, aucun espoir de victoire non plus pour Thomas Cazenave, qui ne recueillerait que 11% d'après BVA. Même scénario à Metz avec Gérard Lioger, 11%, à Grenoble avec Émilie Challe, 16%, à Marseille, 8%, Montpellier, 7%, et Saint-Étienne, petite dédicace aux Stéphanois du studio, 4%. À faire, à suivre évidemment.
Merci Nicolas. Et toi Maxime, tu voulais nous parler d'un autre type de politique avec les femmes.
Effectivement. Mesdames, vos seins sont politiques. Rien de nouveau, me direz-vous, et effectivement. Une victoire en demi-teinte pour l'ex-fémène Yana Zdanova, titrée Libération aujourd'hui. Non, c'était pas aujourd'hui, c'était hier. Voilà qui résume plutôt bien le jugement prononcé par la Cour de cassation donc ce mercredi 26 février. Rappel des faits, Yana Zdanova est une ancienne militante fémène qui était poursuivie pour délit d'exhibition sexuelle suite à une apparition seins nus sur lesquels nous pouvions lire « Kill Poutine » au musée Grévin en 2014. Ce à quoi, 6 ans plus tard et de moult péripéties la chambre criminelle de la Cour de cassation répond clairement que oui, montrer sa poitrine pour une femme est constitutif d'une exhibition sexuelle au regard de l'article. Je ne vous donnerai même pas son numéro car je suis incapable de le lire correctement. Du code pénal. Cependant, l'accusé n'est pas condamné pour le dit délit. Incriminer cette femme d'exhibition sexuelle serait une ingérence disproportionnée dans l'exercice de la liberté d'expression, répondent les juges. La Cour de cassation s'est appuyée pour cela sur le principe du contrôle de proportionnalité prôné par la Cour européenne des droits de l'homme. Maître Marie Dauzet, avocate de Yana Zdanova, estime que l'intention de la personne ne devrait être un élément qui caractérise l'infraction d'exhibition sexuelle. Ce serait donc la loi qui serait mal faite et anachronique. La Cour de cassation s'obstine à rester sur ce point dans les années 50.
Merci Maxime, et après ce petit épisode national, on va passer à l'international. Avec toi Marie, tu nous emmènes en Allemagne ou en Tunisie ?
Alors on va commencer par la Tunisie, puisque l'Assemblée a voté sa confiance au gouvernement du nouveau Premier ministre Elias Farfar, un gouvernement enfin formé après 4 mois de tergiversation et composé d'une coalition de 2 partis sociaux-démocrates et du parti islamo-conservateur Ennahda, qui devra faire face à des défis nombreux, parmi lesquels criminalité, chômage, dette et sécheresse. Le pays, en effet, qui faisait figure de bon élève au Proche-Orient pour avoir su intégrer les islamistes dans le jeu politique, est en mauvaise posture depuis les printemps arabes de 2011. Son économie tourne au ralenti, le taux de chômage atteint presque 15%. Le gouvernement devra une fois de plus emprunter pour boucler son budget, alors que le pays a déjà une dette équivalente à 70% de son PIB. Un changement tout de même, la récente entrée en exploitation du champ gazier de Nawara, qui devrait réduire le déficit énergétique tunisien. Au niveau politique, le président Kais Saied est critiqué pour son manque de stratégie depuis son élection en octobre et le nouveau gouvernement risque de voir s'affronter le parti islamiste Ennahda, en mauvais termes avec le gouvernement, et d'autres partis bien plus ancrés à gauche. Affaire à suivre donc.
Et maintenant, Nicolas, tu voulais nous faire un petit point sur les primaires aux USA.
Oui, alors situation totale de crise pour le Parti démocrate aux États-Unis, puisque les grands pontes du parti sont en sueur. Oui, petite référence à ton émission, Victor. Face à la montée de Bernie Sanders, qui lui-même, en fait, ne fait pas vraiment partie du Parti démocrate. Il se présente comme indépendant aux primaires du Parti démocratique. Alors, pour recontextualiser un peu, il faut vous expliquer ce que sont les super-délégués pour ces primaires. Alors, contrairement à la plupart des autres délégués, qui, eux, les super-délégués et les délégués sont en groupe, votent pour les primaires. Les super-délégués, par contre, ne sont pas sélectionnés ou élus lors des primaires ou caucus qui se tiennent dans chaque État, mais ils sont nommés automatiquement du fait de leur statut comme ancienne ou actuelle élue démocrate, sénateur, gouverneur, etc., ou officiel du parti. Et ils sont libres d'apporter leur soutien à n'importe quel candidat, même ceux qui ne se présentent pas à la primaire. Représentant entre 10 et 20% de la masse totale de délégués pouvant voter aux primaires démocrates, ils sont souvent donc vus comme faiseurs de rois pour ces élections. Le problème, c'est qu'ils font partie de l'establishment du parti. Ils soutiendront pas du tout Sanders et ils sont prêts à donner leur vote à des candidats minoritaires, voire ne se présentant pas du tout aux primaires, comme par exemple on fait tourner le nom de Nancy Pelosi, pour évincer Bernie Sanders de la course. C'est particulièrement grave quand Sanders est clairement en pole position après les 3 premiers États par lesquels les primaires sont passées.
Merci Nicolas. Et toi Victor, tu voulais nous parler de violences communautaires en Inde.
34 morts et 330 blessés, c'est le bilan actuel des violentes émeutes religieuses qui ont agité New Delhi, la capitale indienne, pendant 3 jours. Alors qu'au même moment Donald Trump saluait l'incroyable union du peuple indien, des milices hindoues faisaient irruption dans les quartiers musulmans de la banlieue de New Delhi, où elles ont brûlé des maisons, saccagé des mosquées et des commerces. Et ce regain de violence fait suite à l'adoption en décembre dernier d'une loi de mise au ban des musulmans, et notamment des réfugiés politiques du Pakistan ou du Bangladesh, qui pourraient devenir des citoyens de seconde zone.
Et cette fois, Marie, tu nous emmènes en Allemagne.
Oui, alors l'Allemagne qui connaît en ce moment une actualité très mouvementée, puisque le 18 février, 12 personnes appartenant à un groupuscule d'extrême droite qui voulait imiter le massacre de Christchurch en Nouvelle-Zélande ont été arrêtées. Leur chef est connu et surveillé depuis plusieurs mois par les autorités, ce qui a suscité un débat sur la surveillance par le gouvernement des présumés terroristes. Quelques jours plus tard, une fusillade dans deux bars à Chicha a fait 9 morts. Elle était motivée par des motifs ouvertement racistes. De quoi raviver un sujet brûlant, celui du retour de l'extrême droite dans un pays encore secoué par l'exécution, par les extrémistes, du ministre Walter Lübcke en août dernier. Selon l'estimation, le bilan des violences néo-nazies depuis 1990 est de 100 à 170 000 morts par an pour des motifs purement racistes.
Et tout de suite après, la revue de presse, qu'on commence avec un François assez connu.
Voici la revue de presse. Bonjour Bruno Duvic.
Bonjour à tous.
La revue de presse.
La revue de presse dans les journaux.
La revue de presse.
La revue de presse qui fait parler et qui vous fait réagir, c'est avec Natacha Polony.
Revue de presse française. Et on commence cette revue de presse avec...
Et on le commence tout de suite avec, comme tu l'as dit, un François assez connu. Allez, donnez-moi un F, donnez-moi un I, donnez-moi un double L, donnez-moi un O. Et oui, François Fillon, ou s'il était chanteur populaire, Fraude François, c'est au choix. Notre golden boy national est de retour sur la place publique. Tous les quotidiens, Le Monde, Le Parisien, 20 minutes sont super excités à l'idée de nous faire bouffer des mises à jour d'articles à l'appel qu'on connaît déjà de toute façon. C'est génial. Bon, parce qu'on la connaît déjà en vrai l'histoire. Pour résumer, François Fillon est accusé d'avoir rémunéré son épouse, Pénélope, comme collaboratrice parlementaire alors qu'elle n'exerçait pas de réelle fonction, selon l'accusation. L'ancien Premier ministre va du coup contester les faits. Si les preuves manquent, il assure toujours que son épouse a été, je cite, « sa première et plus importante collaboratrice », MDR. François et Pénélope Fillon, du coup, nos Bonnie and Clyde nationaux, sont jugés jusqu'au 11 mars pour détournement de fonds publics et abus de biens sociaux. Un schéma dont on commence à, ma foi, prendre l'habitude, si bien que Le Monde en profite pour nous filer un petit cours de droit dans un article titré « Querelle procédurale et premières escarmouches ». Merci qui pour ce cours de droit ? Eh ben, merci Le Monde ! Comme l'audience était consacrée hier, en effet, à deux questions prioritaires de constitutionnalité, appelées dans le jargon QPC, et c'est en fait une procédure de contrôle de constitutionnalité sur les lois déjà promulguées. Ce sont donc, en fait, pour résumer, des questions d'ordre général posées par les avocats du couple sur lesquelles le tribunal se prononcera deux jours après, jeudi, où ils essayent en gros de justifier que les plaintes dont ils font l'objet ne sont même pas fondées constitutionnellement. Bon, allez, je vais quand même vous partager une petite citation bien juteuse sortie de cette partie du procès. Que serait un grand procès sans QPC, pardon. Et qu'importe que François Fillon, en son temps, n'en ait pas été le plus fervent défenseur, ironise l'un des deux procureurs à l'audience, Aurélien Létocard.
Bah, d'ailleurs, en parlant de tocard, c'est pas en ce moment le salon de l'agriculture ?
Ah ouais, tu as tout à fait raison Adèle, profitons-en pour parler de la FNSEA, acronyme pour Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles, fondée en 1946, et syndicat professionnel majoritaire dans la profession agricole en France. Au salaire, usage des prélèvements sociaux, gestion des œuvres sociales, tiens, l'équipe de journalistes d'investigation de Mediapart a encore frappé. C'est cette fois Amélie Poinceau qui va droit au but, comme Marseille je sais, en trois volets dont le premier porte sur le train de vie hors sol de ses dirigeants, je cite. Évidemment, précarité pour les agriculteurs, mais pas pour les cadres de la FNSEA, l'enquête montre. L'ex-directrice générale de la FNSEA, par exemple, est rémunérée 14 900 euros brut par mois pour un poste de conseillère, entre guillemets, l'équivalent de ce que je touche, pas de ce que je touche, oh là, non, j'espère pas, non, l'équivalent de ce que touche en moyenne un exploitant agricole en un an, et pas moi. Ensuite, un second volet qui se focalise sur un fonds normalement destiné à un observatoire de l'emploi agricole financé par des cotisations obligatoires et qui alimenterait des caisses du syndicat majoritaire. Enfin, Amélie Poinceau finit avec l'exemple du mécanisme d'œuvre sociale, dispositif cousin des comités d'entreprise, mais pour les agricultrices et agriculteurs, mécanisme qui existe depuis 2015 et qui aurait en fait servi à, je vous laisse deviner, Et oui, il aurait servi à enrichir les caisses de la FNSEA, du FNSEA, à hauteur de pas moins de 1 million d'euros. Bon, un constat sans appel dont notre journaliste a profité pour aller interviewer en partie de Valentine Auberti, notre Jupiter national, sur le sujet. Et puis, réponse classique pour la Macronie. On peut, dans notre pays, décider de diviser les Françaises et les Français en stigmatisant, nous dit Macron. Il faut que tout le monde soit transparent. Après, la transparence ne veut pas dire la stigmatisation. On en aura finalement mangé de la langue de bois de partout pendant ce mois de février.
Fin février, c'est Mardi Gras aussi. C'est le moment où se célèbrent tous les carnavals, non ?
Et oui, Adèle, et c'est du coup le moment où je vais vous parler de belles traditions et pratiques qui leur sont associées. Allez, France Info nous plonge dans l'ambiance du carnaval d'Alost en Belgique flamande qui existe depuis le Moyen-Âge et a eu lieu dimanche dernier. Imaginez juste, au milieu du carnaval, un char représentant le mur des Lamentations. Le mur des Lamentations ? Suivi par des caricatures de juifs orthodoxes, habits noirs, toques en fourrure, au corps de fourmis. Quelle bonne ambiance. On se demande comment les génies qui ont imaginé ce char l'ont justifié. Eh bien, les concepteurs du carnaval disent avoir voulu faire un jeu de mots entre « mir », fourmi en néerlandais, et « mur », mur en néerlandais. Et au cas où vous n'auriez pas été convaincus par leur démonstration, l'an dernier, eh bien, des juifs orthodoxes au nez crochu avaient été représentés assis sur des coffres d'or ou d'argent, sous le vent, comme pour cette année, vous l'aurez imaginé, un torrent de critiques. Et ça fait maintenant quelques mois que l'événement a été totalement retiré de la liste du patrimoine universel de l'UNESCO, mais bon, hein, ce serait trop facile de tout simplement y mettre fin. Même histoire à Campo de Criptana, dans le centre de l'Espagne, où le Huffington Post relate des participants déguisés en soldats nazis et armés de faux fusils dansant au son d'une musique disco.
Eh ben, tu nous régales aujourd'hui. Tu vas plutôt nous parler gastronomie comme la dernière fois ?
Ouais, allez, finissons sur une touche gourmande, hein, le morceau de sucre qui nous aidera à avaler la bonne grosse pilule de ces actualités tellement, tellement fatigantes. Focalisons-nous du coup sur le gras de Mardi Gras. Si Mardi Gras ou le carnaval tiennent leur nom et leur date du carême, qui commence le lendemain mercredi des cendres, la fête n'est à l'origine pas du tout chrétienne, contrairement à la chandeleur qui a lieu quelques semaines auparavant. Alors pourquoi se régale-t-on de bugnes, beignets, gaufres et autres crêpes et churros croustillants à ce moment de l'année, se demande-t-on chez Madame Figaro, qui interviewe pour l'occasion Nadine Crétin, historienne des fêtes. Cette fête fonctionne en fait exactement comme pour les calendes de janvier de la Rome impériale, nous explique-t-elle, puisqu'elle célèbre le commencement de l'année et la renaissance de la nature. Célébration à l'origine païenne. Et en pratique, il était d'usage avant le carême de manger alors en abondance, avec un festin qui comprenait viande et bouillon gras et se terminait par des pâtisseries simples à faire et souvent frites. Vous aurez compris d'où viennent les gaufres et les bugnes lyonnaises, qui sont, elles, arrivées à Lyon au XVIe siècle avec les marchands italiens. En espérant que ça vous donnera un petit peu faim.
Bon, et après les recettes de Nicolas, tu nous proposes quoi, Marie ?
Eh bien, quelques portraits inspirants et une petite échappée hors du réel. Alors, commençons d'abord à Paris, mais non, on va pas parler municipal, car La Croix nous propose plutôt de nous intéresser au nouveau projet de l'architecte japonais Tadao Ando, qui sera présenté en juin prochain, c'est la Bourse de commerce de Paris. Né dans une banlieue ouvrière d'Osaka, Tadao Ando dessine à 14 ans le deuxième étage de sa maison, qui sera construit exactement selon ses plans. À 18 ans, il déclare, je cite, « vouloir rendre le béton digeste et défendre à tout prix son bien le plus cher, la liberté de penser ». À 24 ans, il fait le tour du Japon et le tour du monde, et quelques années plus tard, sans avoir jamais fait d'études, il obtient le prix Pulitzer d'architecture pour, je cite, « sa philosophie de l'architecture qui crée des espaces où l'homme est en relation avec la lumière ».
Ok, c'est un portrait inspirant, mais t'aurais pas une autre figure à nous présenter ?
Alors si, et cette fois on part en Allemagne pour la rencontrer, je parle de Naomi Seibt. Elle a 19 ans, elle est youtubeuse, proche du parti d'extrême droite AfD, et on la surnomme l'anti-Greta. Même cheveux blonds que Greta Thunberg, même éloquence, mais discours radicalement opposé. Car Naomi qualifie Greta de « marionnette endoctrinée » et elle qualifie la conscience climatique de, je cite, « idéologie anti-humaine ». Alors apparemment, son franc-parler a bien plu au Heartland Institute, un think tank conservateur américain qu'il a recruté pour être l'effigie d'une grande campagne remettant en cause le consensus scientifique autour de la responsabilité humaine dans le changement climatique.
Bon, et si tu nous parlais un peu du coronavirus, c'est quand même un sujet majeur, non ?
Alors oui, le Figaro consacre un reportage au pangolin, cet animal à écailles que Pierre Desproges décrivait comme, je cite, un artichaut à l'envers avec des pattes prolongées d'une queue à la vue de laquelle on se prend à penser qu'en effet, le ridicule ne tue plus.
Le rapport avec le coronavirus ?
Eh bien, ce mammifère est donc soupçonné d'avoir été un des transmetteurs originaux du virus, sans que cette thèse n'ait pour l'instant été prouvée. Reste que le pangolin est d'abord l'espèce la plus braconnée au monde, devant les éléphants et les rhinocéros. La médecine chinoise attribue à ces écailles des vertus curatives, et en Afrique de l'Ouest, sa viande est considérée comme un mets de luxe. Mais si l'espèce est protégée, elle fait donc l'objet d'un trafic important et très peu contrôlé, un fait qui pose des problèmes sanitaires majeurs.
Ouais, enfin ce qui pose aussi des problèmes sanitaires majeurs, c'est peut-être également notre mode de vie prédateur, non ?
Oui, alors au lieu de reporter la faute sur d'inoffensifs petits artichauts sur pattes, interrogeons-nous sur nos pratiques à nous, les humains. Dans le monde diplomatique, Sonia Shah explique notre vulnérabilité croissante face aux pandémies par la destruction accélérée des habitats. Avec la déforestation, par exemple, les espèces qui sont privées de leurs habitats naturels se regroupent près des implantations humaines, ce qui accroît la probabilité de contacts proches et répétés avec les hommes. Et avec l'altération des sols, l'eau et les sédiments ruissellent plus facilement et forment des flaques qui sont favorables au développement des moustiques porteurs du paludisme. De même, l'élevage industriel s'accompagne de montagnes de déjection qui ne peuvent pas être imprégnées par les sols et qui sont autant de zones de développement privilégiées pour des bactéries extrêmement nocives pour l'homme.
Bon, si on allait voir ailleurs pour changer un peu de sujet ?
Eh bien oui, par exemple, allons, tiens, dans l'espace. Mais je te préviens, c'est pas très réjouissant non plus, d'après un article de The Conversation. Car dans l'espace se trouvent quelque 240 satellites déployés par SpaceX afin de fournir une connexion Internet à haut débit pour tous. Mais problème, ces satellites pourraient être piratés et devenir des armes de guerre, avertissent les chercheurs. En effet, certains des composants utilisent de l'open source et ces satellites reposent sur des technologies très peu chères. Les pirates pourraient donc couper l'accès à Internet dans des zones entières, ce qui pourrait causer des problèmes socio-économiques majeurs, ou alors détourner les satellites pour les faire heurter d'autres appareils qui gravitent dans l'espace. Bref, un scénario de science-fiction pas si éloigné de la réalité.
Bon, face à ces infos pas forcément très gaies, on pourrait être tenté de se distraire un peu, en jouant aux jeux vidéo par exemple ?
Alors oui, pourquoi pas, mais encore faut-il choisir lequel ? Car si vous achetez Through the Darkest of Times, désolé pour l'accent, c'est plutôt une plongée très réussie dans le réel qui vous attend. Unanimement saluée par la critique, cette pépite, conçue par deux Allemands, vous permet d'incarner des résistants pendant l'époque nazie. Un jeu ouvertement antifasciste, dont les graphiques s'inspirent des peintures d'Autodix et la musique, des airs de swing qui sortaient des gramophones des années 1930. Un jeu aussi qui réussit le pari de raconter fidèlement la grande histoire à travers des cas individuels, un membre des jeunesses hitlériennes qui déserte ensuite l'armée, une femme chômeuse qui se trouve un emploi dans un camp de concentration, etc. Bref, ici on ne fuit pas le réel, mais on se pose des questions, tout en appréciant un des rares jeux sur la période nazie qui ne soit pas apolitique.
Ok, bon. Et pour finir, la presse n'aurait pas un dernier conseil pour ceux qui seraient adeptes de l'ambiance Troisième Reich, mais qui voudraient s'évader un peu du réel ?
Alors oui, pour ceux qui ne seraient pas du coup adeptes de cette ambiance Troisième Reich, il y a une solution. Ils peuvent aller fouiller du côté du collectif Zanzibar, auquel Le Monde consacre un article au titre alléchant « Zone de rêve collectif ».
Zanzibar ?
Oui, alors Zanzibar, c'est un collectif d'écrivains de science-fiction, parmi lesquels Alain Damasio, Catherine Dufour ou Léo Henry. Créé en marge du Festival des Utopiales, il vise, je cite, « à susciter la co-création, à imaginer nos avenirs, à jouer avec et à les construire à notre guise ». Car oui, nous rappellent les auteurs, tout ce que nous pouvons voir a bien été, à un moment ou un autre, imaginé. Alors à Zanzibar, on pratique la science-friction, l'art de rapprocher deux sujets qui n'ont a priori rien à voir. Et pour susciter la création, on élabore des protocoles qui jouent sur la contrainte pour titiller les imaginaires. Exemple, je cite, le Protocool One. Entrez dans un bar à plusieurs, payez votre tournée. Puis, imaginez ce bar dans 10 ans et votre retour à tous dans ce même bar. Et imaginez ensuite le bar dans 50 ans, puis 100 ans. Autre exemple de proto-cool, l'horoscope universel. Je cite les consignes, quel est le signe de l'univers ? Titre, une forme larvée d'inquiétude, vous avez 20 minutes.
Merci Marie, merci Nicolas pour cette super revue de presse. Et tout de suite, c'est le billet politique.
C'est le billet politique avec Adèle.
Alors, tandis que j'étais en pleine réflexion sur le sujet de mon billet politique, municipal, Trump, il m'est revenu à l'esprit cette histoire que m'a racontée ma prof d'italien hier soir. Alors qu'elle dînait tranquillement avec des amis au restaurant mardi, elle a prononcé quelques mots dans sa langue natale, ce qui a visiblement suffi à la dénoncer comme potentiellement porteuse du coronavirus auprès d'une cliente pour le moins sourcilleuse. Celle-ci s'est levée et lui a dit, devant l'assemblée, qu'elle devrait rentrer dans son pays avant de contaminer tout le monde. L'enseignante dont je parle vit en France depuis plusieurs années, et elle vient de Sicile, qui n'est pas encore connue pour être un foyer de contamination. Cette histoire rejoint quand même celle de nombreuses personnes d'origine asiatique qui font face à une recrudescence de propos et d'actes racistes, assimilés indifféremment à des Chinois, comme si être Chinois aujourd'hui signifiait être quelqu'un d'infecté et d'infectieux.
Alors, c'est sûr que les propos racistes, c'est pas top, mais en même temps, on peut comprendre la peur des gens face à la propagation d'une telle épidémie, non ?
On peut comprendre la peur, effectivement, mais il faut aussi la relativiser. Jusqu'ici, la plupart des études considèrent que le nombre de personnes qu'un malade risque d'infecter oscille entre 2 et 3 personnes. Ça peut paraître beaucoup, mais en réalité, c'est un indice de contagiosité qu'on peut qualifier de modéré. À titre de comparaison, l'indice de contagiosité de la varicelle est de 8,5 et de la rougeole de 9 personnes. Ce qui fait peur aussi, c'est la létalité du virus. Et pourtant, son taux est en moyenne de 3,4%, ce qui est par exemple 3 fois moins que le SRAS en 2003, qui était de 9,6%, alors qu'on a quand même souvent tendance à comparer les deux virus. Et il faut rappeler aussi que dans 80% des cas, l'infection est bénigne.
Et alors, est-ce que le virus touche tout le monde de la même façon ?
Alors, non. D'une part, le taux de létalité du virus est plus élevé pour les populations âgées et évidemment pour les personnes déjà affaiblies par d'autres maladies. Mais il n'a aussi pas le même impact sur tous les territoires. Là où le taux de létalité est le plus élevé, c'est dans la province du Hubei, d'où est partie l'épidémie, il y a d'à peu près 3,96%. Il est aussi plutôt élevé en Italie, il est de 3,1%, tandis que par exemple au Japon et en Corée du Sud, qui sont aussi très affectés, le taux de létalité est bien plus faible, il est inférieur à 1%. Donc on voit que derrière ce virus se cachent aussi des enjeux qui sont politiques. La résilience n'est pas la même selon le système de protection de santé et les moyens alloués aux hôpitaux. Par exemple, le directeur général de l'OMS s'est inquiété du, je cite, « potentiel de dissémination du virus dans les pays dont les systèmes de santé sont les plus précaires ». Et c'est d'ailleurs ce qu'a confirmé ce matin le neurologue François Salachas, membre du collectif Interhôpitaux à l'occasion de la visite d'Emmanuel Macron à la Pitié-Salpêtrière. Je cite « Sans injection de moyens rapides, nous ne pourrons pas faire face à ce type de crise ». À l'heure actuelle, si les 4 gros foyers dont on parle sont la Chine, la Corée du Sud, l'Italie et l'Iran, 42 autres pays sont touchés par l'épidémie, tels que l'Afghanistan, Bahreïn, le Koweït, l'Irak ou Oman. Donc inutile de préciser que la situation pour les malades n'y sera certainement pas la même qu'en France.
Et alors, au-delà du domaine de la santé, quels sont les impacts de cette épidémie ?
Alors, pour reprendre le cas de la Chine, la mesure de mise en quarantaine de 40 millions de personnes est la plus grosse opération de ce genre dans l'histoire de l'humanité. Il est évident qu'une telle politique a nécessité un renforcement du pouvoir militaire et de la propagande pour être effective. Dans la ville de Xi'an, par exemple, les autorités appliquent des mesures de guerre, interdisant strictement la sortie dans la rue de la population, qui est surveillée jour et nuit, et arrêtée en cas de sortie non autorisée. Les personnes les plus touchées sont celles qui se situent en bas de l'échelle sociale. L'atteinte à la libre circulation et le confinement des villes pénalisent des millions de travailleurs migrants qui ne peuvent plus rejoindre leur lieu de travail et ne bénéficient d'aucune indemnité pour cela. De nombreuses usines ne tournent plus qu'à moitié de leur capacité, mettant au chômage technique d'autres dizaines de milliers de personnes. La construction d'hôpitaux en un temps record n'a pu être réalisée qu'en raison d'horaires de travail complètement inhumains, 2 équipes de 12 heures se relayant par exemple. Et de même, les conditions de travail du personnel médical sont totalement désastreuses. Déjà plus de 1500 d'entre elles et eux ont été contaminées par le virus. Donc sans parler de l'interdiction de se réunir et la fermeture des écoles et universités, mesure également prise en Irak jusqu'au 7 mars, donc qui fait bien sûr le jeu des régimes autoritaires. Donc au-delà d'une épidémie, le coronavirus, c'est aussi et surtout la mise en place de mesures dignes de zones de guerre dans certains pays qui mériteraient peut-être un peu plus d'attention que la psychose collective qui semble s'installer. Et tout de suite, on passe au billet éco avec Elliot qui va nous parler de la fermeture de la centrale de Fessenheim.
Samedi dernier, le premier réacteur de la centrale nucléaire de Fessenheim a été mis à l'arrêt. Le second le sera le 30 juin, en prévision du démantèlement définitif de la centrale la plus vieille de France, mise en service en 1977. François Hollande avait promis son arrêt en 2011, Emmanuel Macron l'entérine afin de suivre le projet gouvernemental de réduire la part du nucléaire dans la production d'électricité en France, afin de passer de 75% à 50%.
Et pour quelle raison le gouvernement s'est fixé un tel objectif ?
Pour rien. Pour rien, et c'est bien le problème. Voici les deux principaux arguments énoncés par l'ensemble des acteurs souhaitant la fermeture de la centrale. Dans le même panier, Greenpeace, le gouvernement ou encore le collectif Sortir du nucléaire, l'écologie et la sécurité. Je vais examiner ces deux arguments en m'appuyant sur les idées de Jean-Marc Jancovici, qui est ingénieur, enseignant aux mines et président d'un think tank sur le changement climatique. Vous trouverez évidemment des liens plus précis sur le site de Transistor. En ce qui concerne la sécurité, la question est simple. Il existe en France l'ASN, ou Autorité de Sûreté Nucléaire, qui, comme son nom l'indique, s'occupe des questions de sûreté nucléaire sur le territoire. Créée en 1991, devenue une autorité indépendante depuis 2006, son rôle est de veiller à ce que les centrales en service présentent un risque égal ou inférieur à celui qu'elles présentaient lors de leur mise en service. Or, les préconisations de l'ASN concernant Fessenheim n'ont jamais été d'arrêter la centrale, montrant même que des réacteurs similaires ont vu leur durée de vie prolongée partout dans le monde. Si les travaux pour assurer la sécurité de Fessenheim étaient demandés par l'ASN, si ceux-ci avaient été effectués, ils auraient certes eu un coût, estimé à 280 millions d'euros, mais un coût dérisoire par rapport à ce que la centrale rapporte à la collectivité, et dans tous les cas, un coût bien inférieur à l'indemnisation qui va être payée par l'État à EDF pour la fermeture de la centrale, à savoir 400 millions d'euros. En effet, la centrale est rentable, exporte en Allemagne et en Suisse, et cette indemnisation est fondée sur les prévisions de rentabilité de la centrale. Donc finalement, pour des questions sécuritaires, la seule autorité compétente a prononcé son verdict, qui est inutile de fermer la centrale. Et en termes économiques, c'est également une erreur. Mais qu'en est-il du dernier argument, l'argument écologique, qui a pu être invoqué afin de justifier la fermeture de Fessenheim ? Il va falloir revenir pour l'examiner sur quelques faits contre-intuitifs. Premièrement, baisser la part du nucléaire dans le mix énergétique français est incompatible avec la production d'une électricité décarbonée, et disons-le clairement, avec la transition écologique. Le mix énergétique, c'est simplement par quels moyens est produit l'électricité en France, gaz, charbon, nucléaire, etc. Et si nous avons une exception française d'un parc énergétique composé pour moitié de nucléaire, il ne faut pas oublier que c'est une exception, alors que près de 40% de l'électricité mondiale est produite grâce au charbon, et que c'est cette source de production qui a le plus augmenté depuis 2015, alors que 2015 était, rappelons-le, l'année de la COP21. Or, c'est bien la production énergétique qui est le secteur concentrant le plus d'émissions de CO2 dans le monde, un tiers, soit deux fois plus que les transports. Et donc finalement, les deux seules sources d'énergie que nous avons pour lutter contre le changement climatique sont les énergies décarbonées, et les deux seules qu'on a, ce sont le nucléaire et les renouvelables. Renouvelables, j'entends éolien, solaire, hydraulique, etc. Cependant, les seconds, donc les renouvelables, sont beaucoup plus chers et compliqués à mettre en œuvre. Un exemple simple pour vous donner un ordre de grandeur, produire 1 kWh de solaire demande 1000 fois plus d'espace qu'un kWh de nucléaire, 1000 hectares contre 1 hectare. De même avec les matériaux, 100 fois plus de cuivre et 50 fois plus d'acier pour 1 kWh de solaire par rapport à 1 kWh de nucléaire. Enfin, petite interruption musicale dans le nucléaire, enfin, c'est là que le bât blesse, les énergies renouvelables ne sont pas pilotables. Comment comprendre par pas pilotable qu'on ne sait pas les stocker et les réutiliser à notre guise ? Il faut forcément du soleil pour produire de l'énergie solaire, forcément du vent pour faire tourner les éoliennes. Ainsi, dans nos sociétés industrialisées, fondées sur le postulat d'une énergie disponible à la demande, que ce soit pour le fonctionnement des entreprises ou dans notre quotidien, il est illusoire de penser la transition écologique sans le nucléaire. Et même en l'accordant avec une décroissance, ce que prône Jean-Marc Jancovici, le nucléaire reste la seule solution pour pallier un risque bien plus grand encore, le changement climatique. Ainsi, si repenser notre modèle de production et de consommation, donc repenser notre modèle économique, est certainement nécessaire pour assurer la transition écologique et pour lutter contre une hausse trop importante de la température moyenne, il est important de le faire de façon rationnelle et efficiente. Et finalement, la véritable raison de cette démagogie politique est loin d'être si noble qu'elle peut le paraître au premier abord. Un accord électoral d'Hollande avec Europe Écologie Les Verts pour être soutenu pendant sa campagne, puis une stratégie politique d'Emmanuel Macron pour récupérer les électeurs d'Europe Écologie Les Verts qui sont notoirement connus pour être anti-nucléaires. Rien de très reluisant donc derrière la fermeture de Fessenheim et un nouvel échec de notre démocratie à penser les questions complexes sur le long terme.
Merci Elliot pour cette mise au point.
C'est toujours le journal radiophonique amplifié sur Transistor, fer de lance d'un néo-gauchisme que je m'applique à détruire tous les jours sur Transistor jusqu'à 21h.
Merci de nous écouter, il est 21h01 et vous êtes toujours sur Transistor. Et je vais laisser la parole à Victor qui va nous parler sans doute du résultat d'hier. Turin contre OL, c'est quoi les...
Eh ben on va voir.
Un entraîneur, ça doit être entraînant.
Oui mais là ça pique.
Respectez, pas faire de faute, pas faire de faute.
Alors ça je n'ai vraiment pas peur de le dire, monsieur Foot, vous êtes un salaud.
La traverse.
C'est mieux que l'année dernière, non, Gangarus? L'année dernière, on n'avait pas d'opium, je te rappelle.
Alors, je vous avais annoncé il y a 2 semaines la future élimination du PSG en Ligue des Champions, et c'est déjà à moitié fait. Alors, je dois mes talents de voyance au Borussia Dortmund, qui s'est imposé la semaine dernière grâce à sa pépite norvégienne Erling Haaland, qui a 19 ans et auteur d'un doublé. Et en revanche, grosse performance hier de l'Olympique Lyonnais, qui a battu la Juventus de Turin hier grâce à un but de Lucas Touzard. Les matchs retour auront lieu début mars. Et ce soir, si vous vous ennuyez après le JRA, vous pourrez suivre en Ligue Europa le match opposant Linz à Alkmaar, qui est autant un match de football qu'un jeu géographique.
Et j'imagine qu'avec toutes ces histoires de coronavirus, les déplacements sont un peu perturbés.
Alors oui, tout à fait. Hier, c'est vrai que la venue de 3000 spectateurs italiens venus de Turin, donc c'est au nord de l'Italie, pour les plus incultes d'entre vous, a fait longtemps parler et ils sont finalement venus en bus et ont été contrôlés avant leur départ. En revanche, le match du tournoi des Six Nations en rugby, donc Irlande-Italie, qui devait avoir lieu le 7 mars, a été annulé par mesure de sécurité. Et dans ce même tournoi, on notera la bonne performance du 15 de France qui en est à 3 victoires d'affilée, ce qui n'est pas arrivé depuis longtemps, et qui visera le titre, voire même le grand chelem face à l'Écosse, puis face à l'Irlande. Les Françaises, elles, se sont imposées sur le modeste score de 50-0 face aux Galloises, mais c'est une rencontre qui s'est jouée sur le terrain annexe de l'enceinte de Cardiff. Et donc un jour, peut-être, on espéra qu'elles joueront en prime time dans un vrai stade. Et enfin, si vous êtes forcé pendant vos vacances d'aller faire un tour dans le Nord-Pas-de-Calais pour aller dire bonjour à vos vieux oncles et tantes, profitez-en pour aller faire un tour à Liévin où se tiennent les championnats de France d'athlétisme en salle, où du fait de l'annulation des championnats du monde, tout le gratin des athlètes français sera là. Renaud Lavilloni, Pascal Martineau-Lagarde, Héloïse Le Sueur et Pierre-Ambroise Boss seront les têtes d'affiche de la compétition, et avec également une petite dédicace pour les athlètes de Lyon et notamment Farah Claire, alignée sur le 400 mètres.
Et pour finir, un petit sport pour les vacances, qu'on soit à Saint-Étienne ou pire, dans le Nord.
Alors déjà, si vous allez à Saint-Étienne, je suis désolé, mais c'est comme ça. Et pour ces vacances, on va parler de pentathlon contemporain. Alors c'est une forme rénovée du pentathlon moderne, qui est probablement le sport olympique le moins suivi. Le pentathlon contemporain regroupe 5 épreuves, rapportant des points et permettant d'établir un classement. Contemporanéité oblige, tous les sports ont été adaptés aux enjeux les plus prégnants de notre époque. On commencera donc par une course en trottinette électrique sur un trajet s'inspirant des couloirs de la station Châtelet, suivi d'un combat d'escrime à la perche à selfie. Suite à ces deux épreuves, les plus valeureux s'affronteront sur une course au like de photos de chats sur Instagram, un lancer de sac Deliveroo et enfin une épreuve de survie dans un milieu hostile, à savoir résister 5 minutes dans un Starbucks sans porter d'AirPods. Les premiers tests de cette épreuve auront lieu dans 2 semaines sur le campus de l'EM Lyon.
Merci Victor. Et tout de suite, l'édito scientifique, ce jeudi, avec toi, Maxime.
Air-conditioned bunker where the Norwegians have stored heritage.
Pour revenir aux origines du massif hercynien, il faut faire un bond de
90% of blue and red light is absorbed in the upper one-fifth of a spinach leaf.
Le paramètre qui va caractériser l'ordre du système va être discontinué à la fin.
Catherine Johnson. Adèle, est-ce que ce nom te dit quelque chose?
Alors, comme ça, rien.
Je m'attendais à un mais du coup non, ok. Alors, Catherine Johnson, ou Catherine Johnson, si je m'essaye à un accent américain. Il s'agissait d'une physicienne, aussi ingénieure en aérospatiale, mais avant tout d'une mathématicienne afro-américaine décédée lundi dernier à l'âge vénérable de 101 ans et dont l'histoire est un parfait exemple de lutte sociale au pluriel. Imaginez un peu, nous sommes dans les années 50, dans une Amérique en pleine ségrégation raciale et un milieu des sciences essentiellement masculin, et par essentiellement j'entends presque exclusivement. Et vous êtes une femme afro-américaine et un génie des mathématiques, accessoirement. Les choses, a priori, s'annoncent plutôt mal. Et pourtant, petit retour sur un parcours d'exception qui aura ébranlé à la fois la société civile américaine et le monde des sciences. Katherine Johnson fait donc des études de mathématiques et de français dans les années 30, donc, et notamment à l'Université d'État de Virginie-Occidentale, qui était une université traditionnellement noire. Elle l'intègre à l'âge plutôt précoce de 14 ans, et elle sort diplômée d'une licence à l'âge de 18 ans. Autant vous dire déjà que cette jeune femme laisse pressentir quelque chose de particulier. Katherine occupera tout d'abord un poste d'enseignante en mathématiques et en français durant 2 ans, mais elle quittera ce poste pour intégrer le programme de mathématiques de l'Université de Virginie-Occidentale dans l'objectif de se lancer dans une carrière de chercheuse, objectif qui malheureusement n'aboutira pas. Un premier coup d'éclat cependant. À cette époque, elle est la seule femme afro-américaine à avoir été sélectionnée pour intégrer l'université sur décision de la Cour suprême des États-Unis. À la suite de cette affaire, qui aura vraiment fait des vagues, les États américains se voient dans l'obligation de fournir une éducation publique aux étudiants noirs, soit en autorisant blancs et noirs à se fréquenter dans les mêmes établissements, soit en créant une seconde école spécifiquement pour les noirs. Voilà qui jalonnera le chemin de Katherine Johnson durant le reste de sa vie. Une volonté de liberté pour exercer les mathématiques qui tiendra à repousser les barrières sociales imposées aux Noirs et aux femmes. Ensuite, c'est en 1953 qu'elle intégrera la NASA afin de pouvoir...
Oula, pardon. Qu'est-ce qui s'est passé entre les années 30 et son entrée à la NASA?
Il fallait que tu me coupes. Ah là là, c'est terrible. Et ben, à cette époque-là, comme le veut la société, une femme, ça se sacrifie pour sa famille, c'est-à-dire pour faire le ménage et la cuisine et s'occuper de ses enfants. Et donc, ce n'est qu'en 53, donc presque 10 ans après avoir fini ses études, que Katherine Johnson va décrocher un poste à la NASA en tant que coordinateur humain noir, si on peut se permettre l'expression, donc à la section des West Arena Computers, bien à l'écart des blancs, et cela jusqu'en 1958. Puis, durant presque 30 ans, elle travaillera en tant que technologue en aérospatiale au centre de recherche Langley à la NASA. Si on en croit Jim Hogg pour la NASA Langley Research Center, les connaissances de Katherine en géométrie analytique lui ont permis de s'intégrer rapidement au sein de ses nouveaux collègues et supérieurs masculins, au point qu'ils ont oublié de la renvoyer dans le groupe des femmes. Les barrières de la race et du genre étaient toujours présentes, mais Katherine dit les avoir toujours ignorées. Elle analysera notamment la trajectoire de lancement de la mission Mercury Redstone 3 en 61, qui s'agit de l'envoi du premier Américain dans l'espace, ou en 62 pour la vérification à la main des calculs de la trajectoire pour la première mission américaine envoyant un homme en orbite autour de la Terre, Mercury Atlas 6. Et bien évidemment en 1969, durant la mission Apollo 11, qui envoya pour la première fois des hommes sur la Lune. Un contexte de guerre froide, une course effrénée de qui c'est qu'à la plus grosse entre capitalistes et communistes, dans laquelle cette femme afro-américaine, Katherine Johnson, a joué un rôle des plus importants. Elle s'affirmait dans l'équipe, demandait à participer aux réunions où aucune femme n'avait été encore admise.
Une femme qui a dû s'affirmer alors, dans un milieu qui lui était plutôt hostile.
Mais tu ne crois pas si bien dire. D'ailleurs, cette persévérance a largement été récompensée et reconnue aujourd'hui. La scientifique s'est vue décerner 5 doctorats honoris causa, a reçu les plus hautes distinctions civiles américaines suite à son travail, mais également au cours de sa carrière avec plusieurs reconnaissances spéciales du centre de recherche Langley où elle a exercé. Une maigre consolation, certes, face notamment aux récompenses que peuvent recevoir ses collègues blancs masculins, mais elle disait simplement aux gens qu'elle avait fait le travail et méritait sa place. Preuve donc d'un monde qui change, en société comme en science. Et oui, qui a dit que l'on pouvait se passer de l'un de l'autre et que les mathématiques étaient inutiles?
Certainement pas moi, loin de là. Et on passe tout de suite à la musicienne de Nathan, que je vais vous lire.
Où je vais dire des trucs simples.
Bah pour commencer, Adèle.
Eh bien pour commencer, mon premier artiste se présente en 4 lettres. N-I-R-O. Niro, donc. Alors, comment présenter ce monument du rap de rue ? Validé depuis 2012 avec ses apparitions sur différentes mixtapes, dont l'Autopsie 4 de Booba, avec le titre Fenwick, qui est aussi présent dans son premier album Paraplégique. Avec ce dernier, il initie alors une tradition propre à lui-même. C'est-à-dire additionner un rap de rue avec une voix rocailleuse, l'intéressé dirait racailleuse, ainsi qu'aucune rotation en radio, avec pour résultat peu d'albums vendus malgré une grosse notoriété acquise. Enfin, cette équation commence à changer après l'avènement de la trap et du rap hardcore suite à l'explosion de Kaaris en 2014. Niro, qui était déjà plus ou moins dans cette ligne, en profite pour sortir ce qu'on n'appelait pas encore un banger. Le titre Viva Street. Soit une suite de punchline hardcore, rappeur, avec un ton imposant sur une instru intimidante. Niro était dans la cadence avec son premier gros hit que l'on entend ici.
90 euros la boîte, Viva Street. Bon pour la psychiatrie, trop temps passé dans la piraterie. J'suis déclassé, y'a plus rien qui m'attriste. Y'a que la hagra qui est fédératrice. À part quelques vrais que j'respecte, j'laisse tous ces fils de pute dans leur matrice. Le temps est passé depuis l'époque où j'faisais des faux chèques en bas pour acheter mes habits. Aujourd'hui, ces salopes font là que sont prêtes à faire des combats pour venir sucer ma
vie. On est moins dans l'ambiance là, de la méditation d'un coup.
Et on change de narrateur. Mais j'avais juste envie. Oui, mais attention, car Niro est un rappeur qui a su évoluer au cours des années, et ce tout en gardant sa forte identité, l'ayant permis de se démarquer à ses débuts. En effet, dès l'album suivant, il s'essaye au chant sur d'excellents titres comme Naïf ou Le ciel est ma limite, qui lui permettent d'atteindre des ambiances plus mélancoliques, à la fois puissantes et saisissantes. C'est ce style qu'il va garder par la suite, entre fidélité au rap de rue et recul mélancolique sur son parcours. Niro, c'est un long parcours d'ailleurs qui prouve qu'un public fidèle prêt à suivre des changements de style se construit sur du long terme, car il ne faut pas compter sur le rappeur de Blois pour se reposer sur ses acquis, que ce soit musicalement ou dans sa communication. En témoigne son premier album où il sort 3 hippies à 2 semaines d'intervalle chacun, 3 hippies qui formeront ensuite son album stupéfiant premier album où il bénéficiera d'une vraie couverture médiatique. Et il faut dire qu'il en a plus besoin. Niro s'est formé en marge des canaux habituels, et il a désormais une place à part dans le paysage. Authentique et sincère, il vient du rap de rue, de la rue aussi, et il y reste fidèle, mais s'autorise toujours ses pas de côté pour explorer plein de recul et de spleen, pour trouver de nouveaux moyens d'exprimer son art, comme dans le très beau En double appel.
Les pieds dans la merde, la vie est ainsi faite, chacun veut sa part, quitte à tuer l'autre, faire pleurer sa mère, pour un kilo de zipette, beaucoup de frères à voir, on s'endort à l'aube, on est censé s'aimer, mais c'est dur à croire, on se resserre à boire, limite alcoolo, dès que les souvenirs émergent, on fait peine à voir, j'en rêvais chaque soir, être en bord de mer, tu voulais que j'aille où, avec ma tête cramée, tu voulais que j'aille où, avec ma tête cramée.
Venez rejoindre Nathan qui me force actuellement à dire que Niro fait partie des 5 meilleurs rappeurs en activité pour son concert au Transborder le 6 mars à 19h. La place est à 26€ avec en première partie Lyonzon, un groupe prometteur de Lyon qui mériterait eux aussi s'il n'y avait pas les prochains artistes.
Quels sont-ils alors ?
Et bah tout d'abord, Dinos, un rappeur qui sait prendre son temps, car alors qu'on l'attendait tous en 2015 dans la suite de ses participations au Clash de Rap Contenders et son premier EP assez différent de ce qu'il proposera par la suite. Mais Dinos a disparu 4 ans. 4 ans où on ne savait pas s'il fallait l'attendre, 4 ans où il teasait son premier album Imani. Et au bout de l'attente arriva le presque inespéré album, une première tentative complète où Dinos explore différents styles de rap avec maîtrise et plaisir, mais sans transcender le genre. Puis vint l'annonce de son second album seulement un an plus tard. L'étonnement et les moqueries étaient nombreuses, mais le 29 novembre dernier sort bel et bien Taciturne. Et quel second album ? Nous n'en parlerons pas plus que ça, car le concert du 7 mars prochain, Onin Kasi Gerland, est complet depuis trop longtemps. Mais écoutez Taciturne, l'un des meilleurs albums de 2009, un album embrumé d'un vague désespoir où Dinos clairvoyant mais jamais misérabiliste éclaire de sa belle plume un paysage parfois trop morose, comme dans l'excellent, comme dans les Kaira Prix.
Quand les Kaira Prix, il pleut au paradis, quelques rhumatismes car la rue m'attriste, chez nous c'est beaucoup trop dur à dire, mais on regrette jamais rien, yeah. Salade janaza au moins une fois par mois, au moins zéro fois par mort naturel, au moins une fois par balle, Mon quartier c'est la guerre, y'a un neuf à la Courneuve. Ça fait deux ans que l'ancien premier de ma classe est à Fleury pour meurtre. Si j'aurais grandi ailleurs, je me demande ce que j'aurais été. Je dis si j'aurais, parce que c'est comme ça qu'on parle dans ma cité. On pense qu'à faire l'argent.
Ça fait quand même beaucoup de mélancolie en une seule musicienne, non?
Ouais, je te l'accorde alors. Sans transition, Régie, un petit peu de soleil s'il te plaît en tapis. Ah, on est mieux du coup. L'impératrice, c'est ça. Un rythme pop synthétique et ensoleillé. Même si le groupe préfère plus la métaphore spatiale pour décrire leur musique. Ce qu'on entend ici est le titre Vanille Fraise, sorti en 2017, leur premier gros tube. L'impératrice est un groupe composé de 6 musiciens, 2 claviers, une basse, une guitare électrique et une batterie, qui s'est enrichie en 2015 de la venue d'une voix fluette, aussi envoûtante que sa détentrice en la personne de Flore Benguigui. Rien à voir avec l'humoriste, rassurez-vous. Avec elle, le groupe sort l'excellent Odyssée avec le joli Symphonie Spatiale, qui définit bien leur musique. Comprendre des petits accords simples, une rythmique house, quelques paroles qui n'ont parfois aucun sens, mais restent évocatrices. Et vous avez un joyeux assemblage d'un groupe qui tourne depuis 2 ans grâce à l'album Matahari, sorti en 2018. Ils tournent, et les voir en live, c'est un vrai plaisir. Alignés sur cette vibe de disco cosmique, vous êtes sûr de passer un bon moment à l'épicerie moderne le 12 mars à partir de 12€. Notez que si les organisateurs de Coachella leur ont fait confiance pour le prochain festival, c'est qu'il doit y avoir une bonne raison. Allez, on écoute Erreur 404 pour notre petit plaisir.
Et merci Nicolas pour nous avoir lu ce très beau texte de Nathan et fait découvrir autant de bons sons. Et on passe tout de suite à la chronique culturelle avec Judith qui va nous parler d'un documentaire Arte sur le goulag.
Merci Adèle. Ce soir, en effet, ce documentaire que je vous propose de voir, il est absolument nécessaire. C'est en effet le film « Goulag, une histoire soviétique » réalisé par Nicolas Vert, François Aimé et Patrick Rothman et il est disponible sur Arte jusqu'au 10 avril. Ce documentaire est un événement. Divisé en 3 parties d'une heure chacune, il couvre la période de 1918 à 1957 et il épouse l'histoire du régime soviétique. On y voit des images inédites jusqu'à ce jour. Grâce au travail incommensurable de l'Association de défense des droits de l'homme Mémorial, ONG qui a recueilli depuis le milieu des années 80 des témoignages d'anciens détenus, rescapés après parfois 15 ans de travail forcé, ou encore des personnes qui ont vu leur père ou leur mère disparaître d'un jour à l'autre emportés par des hommes du NKVD, ou même des enfants du goulag nés dans les camps. Ces images et ces paroles sont d'une valeur inestimable, en raison du contrôle de l'information de plus en plus maîtrisé qu'exerce l'administration centrale à l'époque. Étant donné que la pellicule en URSS est monopole d'État, rien n'est filmé sans raison. On montre d'abord les camps du goulag comme un exemple de rééducation par le travail, ou encore dans le but de glorifier le régime par la grandeur des chantiers entrepris. Mais le sujet devient de plus en plus secret, et il subsiste très peu d'images après 1945.
Et alors, que nous apprennent ces images une fois décryptées par des historiens ?
Elles documentent ce que les auteurs nomment un phénomène majeur de l'histoire du XXe siècle. Un pays dans le pays, composé de 400 camps, dont un grand nombre se trouvait en région arctique ou en Sibérie, comme ceux de la Colima. On y apprend surtout la place centrale que tenait cet archipel intérieur au cœur du système soviétique. Dès la Terreur rouge de 1918, les camps font partie du processus révolutionnaire. Mais la répression se perpétue et s'étend après la période de la guerre civile. Avec l'entreprise de découlakisation menée par Staline et la Grande Terreur des années 1936-38, les purges atteignent les membres du parti et de l'armée, les élites intellectuelles et finalement la société tout entière. On élimine ainsi les éléments socialement nuisibles afin de parachever la soviétisation du pays. Au début des années 50, le goulag atteint un total estimé à 5,5 millions de détenus en camps de travail et dans les villages de peuplement. Ces masses constituent une main-d'œuvre gratuite et virtuellement illimitée, permettant la colonisation de régions qui n'auraient par ailleurs jamais été investies, ainsi que l'industrialisation à marche forcée du pays par l'extraction de matières premières. Alors même que les moyens utilisés sur place sont totalement archaïques, puisque l'outillage moderne coûte trop cher. Ainsi, répression et économie sont indissociablement imbriqués. Cependant, les travaux entrepris sont d'une grandeur qui confine au ridicule, et la productivité est absolument déplorable en raison de conditions de travail, ce qui précipite la chute du système dans les années 1950.
Alors, présenté comme ça semble invraisemblable qu'il existe même des images d'un tel appareil répressif. Comment est-ce qu'on parvenait à masquer ce qui n'était ni plus ni moins que de l'esclavage ?
En fait, les images filmées par le régime ont pour but de montrer l'exact inverse de la réalité, afin de contrecarrer les accusations qui se font jour en Europe dès les années 20. Après la parution en 1927 du témoignage d'un évadé des îles Solovki, lieu matriciel du goulag, on montre le camp en question comme une colonie de vacances. Tandis que Staline proclame que la vie est plus gaie en URSS, on fait passer l'industrie pénitentiaire du goulag pour un camp de rééducation, œuvrant de manière efficace à la prospérité du pays. On montre des tracteurs, alors qu'en réalité les prisonniers vont jusqu'à creuser la terre gelée à main nue. Toutefois, les visages des masses des détenus parlent à travers la propagande et les visites orchestrées d'un bout à l'autre. On nous raconte par exemple le passage au Solovki de Maxime Gorki, écrivain officiel. Il comprend, sans équivoque, que des hommes vivent un enfer derrière la mascarade qu'on lui montre. Et il écrit pourtant un article élogieux célébrant le progrès humain et social permis par le goulag. Ainsi, par la force écrasante des images et des discours de propagande, la réalité demeure occultée en Europe de l'Ouest. Très vite, il devient impossible de critiquer l'allié soviétique et Staline siège parmi les vainqueurs du nazisme, alors que la mortalité dans les camps a dépassé les 20% par an lors des années de guerre. Après la guerre, cependant, le déni se poursuit, malgré les témoignages qui se multiplient, ainsi que le montre le procès Kravchenko. Cet ancien haut fonctionnaire du parti est accusé de désinformation par le journal des Lettres françaises, proche du Parti communiste, après la publication de ses mémoires où il relate la réalité du régime. Il obtient gain de cause, mais un certain négationnisme persiste jusqu'aux années 70 de la part des intellectuels français dans un pays qui semble vivre la guerre froide à l'ouest économiquement et à l'Est idéologiquement.
Bon, mais heureusement, aujourd'hui, on a accès à la vérité.
Eh bien, rien n'est moins sûr. Quand on voit le documentaire, on s'étonne sincèrement qu'un tel objet soit à cette heure si méconnu pour ce qu'il est. En Russie, après une reconnaissance des crimes de l'époque soviétique, on assiste actuellement à un regel de la mémoire, correspondant à la stratégie de Poutine de réhabiliter la période stalinienne, grâce à la victoire de 1945, dont il veut faire un pivot de l'identité russe. L'organisation mémoriale est de plus en plus empêchée de travailler. Leurs historiens sont fréquemment arrêtés et emprisonnés pour des motifs fabriqués de toutes pièces par les autorités. En France, la question mérite d'être posée. Selon le philosophe Jean-François Revel, la chute de l'URSS est précisément ce qui permet d'entretenir une complaisance envers le communisme rendu au statut d'utopie toute théorique. Complaisance qui n'est dès lors jamais parasitée par la moindre réalisation concrète et compensée par l'hypermnésie des crimes du nazisme selon la formule d'Alain Besançon. Pour la journaliste Galia Ackermann, interrogée sur France Culture, l'Europe occidentale peine aujourd'hui à considérer l'histoire des pays de l'Est et de la Russie comme faisant partie de sa propre histoire, ce qui expliquerait un déséquilibre mémoriel. Voilà pourquoi il est nécessaire de voir ce documentaire ou de se reporter aux ouvrages de Nicolas Wirth. Et si vous en voulez encore, Arte propose également le documentaire de Cédric Tourbe sur le massacre de Katyn de 1940 et les malversations qui entourent cet objet historique passionnant.
Merci Judith pour ces quelques conseils de lecture. C'était le journal radiophonique amplifié. Cette semaine, il y avait Nicolas Sendé, Victor Andrade, Elliot Moine, Judith Kravitch, Marie Douniac, Maxime Seguin et Nathan Viera par les écrits.
Et Adèle.
Et je pense que toute l'équipe du journal radiophonique amplifié se joint à moi pour saluer Mathilde Picard qui prend ce soir son avion pour le Chili, que vous ne retrouverez pas au JRA cette année, mais que vous pouvez retrouver sur longueur d'onde.
Sur long courrier.
Pardon, sur long courrier. C'est le monde de la radio qui me... Bon, en régie, nous remercions Arthur Kramer. Nous remercions aussi ENS Media pour son soutien technique. Et aussi Félix Barancy pour son aide précieuse, toujours. Le JRA, c'est une émission qui aujourd'hui était coordonnée par Adèle Domas. Le prochain aura lieu le 18 mars et sera animé par Martin Gauthier. Nous avons très hâte de vous retrouver.